Rebonjour à tous et à toutes, auditeurs, auditrices de FM+. Pour cette deuxième heure de la matinale de ce mardi 17 novembre, la table ronde cinématographique de l'association Profil est organisée en visioconférence. Nous allons ainsi pouvoir écouter Claude Bonnet et Simone Clergue pour leur choix cinématographique de ce mois de novembre.
Avec moi en visioconférence, Simone Clergue. Bonjour Simone.
Bonjour Guylaine.
Et Claude Bonnet, bien sûr. Bonjour Claude.
Bonjour Guylaine.
Bonjour.
Alors, Simone et Claude, qu'avez-vous choisi comme film en cette absence de cinéma en salle? Vous êtes bien frustrés, j'imagine.
Oui, mais on a quand même beaucoup de films visibles sur d'autres moyens.
Vous n'êtes pas en manque, pas trop frustrés finalement. Alors, je ne sais pas, lequel de vous deux a établi le programme? Claude?
C'est moi.
C'est vous le responsable.
Je suis le seul coupable.
Ah là 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 là. Alors Claude, qu'avez-vous prévu pour aujourd'hui?
Alors, donc, aujourd'hui, on a retenu deux films. La taverne de la Jamaïque d'Alfred Hitchcock et un deuxième film donc, qui est quand même beaucoup plus récent qui s'appelle The Bookshop d'Isabel Poitse, qui est une cinéaste espagnole, d'origine espagnole, et on terminera donc cet enregistrement avec un petit retour sur le Cinémed, la 42e édition du Cinémed, donc qui s'est terminée maintenant il y a une quinzaine de jours.
Eh bien, c'est parti, on écoute tout de suite le générique de l'Auberge de la Jamaïque.
I always knew that to live like a gentleman, one must have money.
Pengallen! Half my friends living like paupers,
and I'm living like a prince.
More alive than half the people here, look at them.
Somewhere on the shore, a beacon is going out.
Keep it quiet. We've got a visitor.
This won't do, Merlin. It's not enough.
We're doing another raid.
No survivors. That girl.
She knows too much.
What are you all waiting for? A spectacle? You shall have it!
You're a very brave young lady, but you've made my position very difficult.
I'm the law here in Pengallen.
Here you are!
We've got to think of a nice little accident for you.
Give yourself up, I beg you!
He's mad, I tell you, mad!
Stop it, you little fool! The age of chivalry is gone!
Alors, Claude Bonnet, L'Auberge de la Jamaïque. C'est un film pas très nouveau, mais vous allez nous en dire plus.
Alors oui, effectivement, c'est un film donc, qui date de 1939. C'est un film particulier. Alors, bon, ce n'est pas le meilleur film ou un des meilleurs films d'Hitchcock, il faut se mettre d'accord là-dessus, mais c'est quand même un Hitchcock. Hein.
Ouais.
C'est un film qui est spécial dans la carrière d'Hitchcock. La carrière d'Hitchcock, on peut la couper en deux périodes. Il y a la période anglaise, donc la période d'origine, puisqu'elle est d'origine anglaise, et il y a la période américaine, donc continuera donc après ce film, puisqu'il va partir aux États-Unis et il va tourner aux États-Unis, donc Rebecca, qui, chose curieuse, a la même origine, c'est-à-dire les deux livres, dont La Taverne de la Jamaïque pardon, et Rebecca, sont au départ des livres, des romans de Daphné du Maurier. Alors, c'est effectivement donc un film spécial, c'est un film de transition, c'est son dernier film donc, de cette période anglaise. On avait parlé cet été donc dans le premier confinement de ce film qui s'appelle « Jeune et innocent » qui a précédé avec « Une femme disparaît » donc ce film. Alors, c'est aussi spécial dans la carrière d'Hitchcock, puis c'est un film en habit. Il avait fait quelques temps auparavant Le Chant du Danube, et je crois qu'avec celui-là, c'est le seul film que Hitchcock ait fait en habit. Alors, qu'est-ce que c'est que cette taverne de la Jamaïque, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre un peu exotique de Jamaïque. Bon, alors, ça n'a rien à voir avec les films qui se passent dans les îles, dans le genre Une île au soleil ou La taverne de l'Irlandais de John Ford. C'est un film donc qui se rapproche, qui fait penser, par contre, par son contenu, à un film de Claude Autant-Lara qui date de 1951, qui s'appelle L'Aube rouge, avec Fred Fernandel et Françoise Rosé dans les principaux rôles, et qui se passe dans les montagnes de l'Ardèche. Mais surtout, ça fait penser à un film de Fritz Lang qui date de 1957, qui s'appelle Les contrebandiers de Monfleet. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi, parce que ça se passe dans la Cornouaille, comme d'ailleurs le film dont nous allons parler après. Et c'est une histoire donc de naufrageurs. Alors, on est au début du 19e siècle. Marie, donc, est interprétée par Maureen O'Hara. C'est son premier film, elle a 19 ans. C'est le début d'une longue carrière, on pourrait y revenir. Marie, donc, vient de perdre sa mère et elle va rejoindre sa tante qui s'appelle Patience, ça ne s'invente pas, et son oncle Joss dans leur auberge, donc, dans les Cornouailles, sans savoir, évidemment, ce qui s'y passe. Alors, il s'y passe quand même des choses bizarres, puisque c'est le refuge des naufrageurs dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des pilleurs de bateaux, ce sont des gens donc, qui allument des feux, des fanales donc, pour tromper les nuits de tempête, les bateaux qui viennent de se fracasser évidemment sur les rochers de la Cornouaille. Et ces gens-là, donc, ils sont toute une bande organisée. Non seulement donc, ils enlèvent tout ce qu'ils trouvent sur le bateau, toutes les marchandises qu'ils trouvent sur le bateau, mais ils ne laissent aucun survivant. Et le chef de cette bande, c'est l'oncle Joss, donc le fameux oncle de Marie, qui est le tenancier de cette auberge. Voilà, c'est le départ de l'histoire, puisque pratiquement dès le début du film, on voit une scène de pillage, on voit la tempête avec des énormes vagues, et on voit donc cette première scène, donc qui nous donne l'ambiance du film.
Alors Simone, une remarque, un commentaire?
Il y a quand même, dès le départ, cette étrange prière que l'on voit s'afficher sur l'écran, la prière des naufrageurs. Hein, qu'il y ait beaucoup de bateaux qui viennent s'échouer, c'est quand même assez surprenant et ça met bien dans l'ambiance assez angoissante de ce film. Voilà.
Oui, alors, c'est effectivement, c'est la première chose qu'on voit. On voit une espèce de parchemin qui dit qu'évidemment, on ne souhaite pas que les bateaux fassent naufrage, mais s'ils doivent faire naufrage, qu'ils viennent le faire chez nous. Hein, je crois que c'est à peu près l'esprit. Donc là, on reconnaît un peu la pratiscope parce que je pense, alors, soit disant, c'est une vieille prière des Cornouailles, mais je pense que c'est Hitchcock ou son scénariste ou tous les deux qui l'ont inventé. Parce que ça ressemble trop à Hitchcock. Alors, dans ce film, on retrouve surtout aussi, après Hitchcock, la marque de Charles Laughton qui joue le rôle principal. Et je ne veux pas trop dévoiler qui il est exactement, mais je vais simplement dire que derrière son personnage de notable de la région se cache donc quelqu'un qui est beaucoup moins recommandable. Je n'en dirai pas plus. Et Charles Laughton, donc, il a le rôle principal de ce film, et pour cause, puisqu'il est le coproducteur de ce film. Je peux dire quelques mots sur Charles Laughton. Donc, c'est un acteur britannique qui a beaucoup tourné, qui a fait énormément de théâtre, qui a fait beaucoup de cinéma. J'ai noté quelques films, donc, quand je dis à tourner, je veux dire dans les rôles principaux. Il a tourné dans une adaptation anglaise des Misérables, il a tourné dans les Révoltés du Bounty, il a tourné dans Quasimodo, donc, qui est la version britannique donc, de Victor Hugo, de Notre-Dame de Paris, avec d'ailleurs, c'est le film qu'il va faire par la suite avec Maureen O'Hara, donc, qui l'a vraiment séduit à l'occasion de ce tournage. Un film aussi, Témoin à charge, qui est très connu, Spartacus, Tempête à Washington, et surtout, je pense qu'il restera dans l'histoire du cinéma comme l'auteur, c'est le seul film qu'il a réalisé, qui s'appelle La Nuit du Chasseur en 1955, qui fait partie des grands classiques du cinéma, à voir absolument pour tout cinéphile, ou prétendu tel, comme j'avais dit l'autre fois. Voilà. Maureen O'Hara, deux mots sur Maureen O'Hara. Donc, comme je vous ai dit, elle est irlandaise d'origine. Après avoir tourné Quasimodo avec lui, elle va tourner peu d'années après Quelle était verte ma vallée avec John Ford. Après, elle tournera L'homme tranquille. Elle va tourner énormément de films. Elle a une très longue carrière, Maureen O'Hara. Et elle était magnifique, Maureen O'Hara. Donc, elle était rousse avec les yeux verts, ce qui est quand même quelque chose de rare. Voilà, c'est une actrice que j'aime beaucoup.
Simone, vous voulez intervenir ?
Oui, d'ailleurs, moi, j'ai été étonnée par de revoir Charles Laughton à 40 ans. Moi, je me souvenais plus de lui, de ce film. Et justement, c'est la première donc apparition de Maureen O'Hara. C'est Charles Laughton qui a suggéré d'ailleurs à Hitchcock de tourner l'adaptation du livre, et il a imposé Maureen O'Hara qu'il avait prise sous contrat. Justement, il a été charmé par ses yeux verts et ses cheveux flamboyants. Voilà, en tout bien tout honneur, puisque il était occupé ailleurs. Voilà. Alors dans ce film, moi j'ai surtout apprécié bien sûr le noir et blanc, hein, qui sont magnifiques dans les films de Hitchcock. Et surtout, cette image qui m'a marquée, c'est le gros plan sur le visage de Maureen O'Hara quand elle arrive dans la maison de Sir Humphrey et qu'elle lève en un geste très étudié son visage vers lui. Et là, c'est éclatant, c'est magnifique. Voilà.
Alors, c'est d'autant plus magnifique, Simone, que Charles Laughton est maquillé, mais d'une façon outrancière. Et ça, il l'a voulu, hein, puisqu'il était quand même un peu le patron du film. Et on dirait qu'il s'est grimé. Alors, Charles Laughton, c'est le jeu de Charles Laughton, moi, je l'ai toujours trouvé excessif. Il est très cabotin. Il est toujours dans l'exagération. Autrement dit, pour moi, c'est quelqu'un qui a toujours surjoué. Mais c'est vrai que c'est un très grand acteur. Et pour revenir à l'ambiance de ce film, c'est une des choses les plus réussies aussi. C'est un film qui se passe surtout la nuit. Il y a très peu d'images de jour. Alors, on est sur la côte sud de l'Angleterre, la côte des Cornouailles. Donc, il y a toujours du vent, il y a toujours de la brume. Donc, c'est un peu cette ambiance un peu glauque, un peu bizarre qu'on trouve là-dedans. Et par contre, quand on voit, donc c'est la caverne qui est comme ça, c'est le bord de mer. Et par contre, quand on voit dans la superbe maison de Charles Laughton, donc qui est un, comme je vous disais tout à l'heure, qui est un notable, on change complètement d'univers, c'est-à-dire qu'on est dans des couleurs très claires et dans des formes toujours géométriques. Donc il joue sur ce contraste. Et en même temps, sur les personnages, il y a d'un côté, donc dans cette auberge, il y a les bandits, les pilleurs d'épaves. Et par contre, chez Charles, donc ils sont bien n'importe comment, qui sont sales, qui sont crasseux, qui ont des têtes pas possibles, à la Fellini peut-être, on pourrait dire. Et d'un autre côté, chez Charlton, au contraire, ce sont des officiers ou des personnes qui sont toujours très très, très habillées, de manière très très, très recherchée. Et il y a un croisement dans le film, justement, entre quelqu'un qui a oublié ses habits et, bon, mais j'en dirai pas plus, hein, et qui s'appelle Sœur, je ne sais plus comment, et qui se retrouve à un moment donné avec des personnages, un des bandits, mais qui n'est pas vraiment un bandit, je ne veux pas trop en dire, et qui se trouve avec ses habits. Et il y a un croisement donc, qui est assez amusant. D'ailleurs, il y a quand même beaucoup d'humour dans ce film. Je ne sais pas ce que tu en penses, Simone. Il y a quand même quelques scènes très amusantes.
Oui, puis il y a, comme toujours chez Hitchcock, plusieurs niveaux, plusieurs suspens, plusieurs niveaux de faux-semblants. Plusieurs quand même histoires d'amour, même s'il y a d'un côté il y a une histoire assez malheureuse entre l'oncle et la tante, mais les jeunes gens, alors l'histoire commence toujours très mal par des disputes, mais ça se finit bien. Il y a toujours plusieurs niveaux qui sont toujours très captivants finalement chez Hitchcock. Voilà.
Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'on s'arrête là, Claude, ou est-ce que vous avez un commentaire à ajouter ?
Oui, simplement pour terminer, je dirais que, comme toujours chez Hitchcock, on est très vite au courant, nous spectateurs, de qui est qui. Et le suspense, en fait, c'est comment l'affaire va finir, même si on la soupçonne un peu dès le départ. Mais il y a toujours des rebondissements dans ce film, il y a toujours des surprises, et c'est ça qui est le plus intéressant.
Merci à tous les deux pour ce premier choix de Claude Bonnet, Auberge de la Jamaïque d'Alfred Hitchcock. Nous allons tout de suite passer au choix, semble-t-il, de Simone, The Bookshop, un film beaucoup plus récent. Allez, on lance le générique, on se retrouve tout de suite après.
No one in this village will help you. You can't run this place by yourself.
Have your honest assurance that you have ample experience in the trade.
And more importantly, I know. I love reading.
Do you realize how very little working capital you have at present?
Yes.
The only person here who reads is Mr. Brundish.
Do you not read, Mr. Raven?
I don't. Real life's enough for me.
No one has plucked up courage enough to sell books in this forsaken coin of the world.
You don't really look old enough or strong enough.
That's hard to say after first glance. You look old, but you don't look strong.
Many of us are not at all convinced by the sudden transformation of the old house into a shop.
I have read Lolita, as you asked me to. It is a good book.
You really lost your head over this one.
Mrs. Violet Gummett of the Stead feels personally affronted by the current state of your window display.
Thanks to her connections and acquaintances, Mrs. Gamut is a very powerful woman. Does that not concern you?
No.
Are you sure you've received the proper advice to run a business?
There's a possible buyer for your shop.
The shop is not for sale.
Your wonderful campaign will make sure that town councils can acquire their historic properties.
Excellent.
What I value most about human beings is the courage, and you, Mrs. Green, possess that quality in abundance.
Surely you have to succeed if you give everything you have.
It's fun working here, even if I don't like reading.
She wants to get rid of you, and she won't stop until she does.
But you mustn't speak to me that way.
I would very much like to have met you at another time in my life. You make me believe in things I thought forgotten.
Auditeurs, auditrices, nous sommes, et vous êtes toujours sur FM+, nous sommes sur la table ronde de l'association Profil en compagnie de Simone Clerc et de Claude Bonnet. Alors, Claude avait fait un premier choix, L'Auberge de la Jamaïque d'Alfred Hitchcock, un film de 1939 avec Charles Laughton, et nous en a fourni une belle analyse. Et nous avons entendu à l'instant le générique d'un film plus récent, The Bookshop, mais peut-être le lien commun, vous l'avez signalé tout à l'heure, Claude, ce sont les cornouailles. Simone Clerc.
Oui, alors en fait, The Bookshop est un film qui est une ode à la littérature, à la lecture, au livre, et qui donc a été réalisé par une Espagnole, Isabel Coixet, en 2017, mais dont l'histoire se situe dans l'Angleterre de 1959. C'est l'adaptation d'un livre également de Penelope Fitzgerald en 1978. Alors, Hartborough, qui porte bien son nom, le village dur, est une petite ville où Florence Green s'est installée. C'est une jeune veuve de guerre qui ne vit que pour la lecture et veut faire partager sa passion. Vraiment, c'est vraiment une très grande passion pour les livres à la population. Elle a acheté une vieille maison qu'elle a retapée pour y installer sa librairie. Mais elle va se heurter à une autre femme, mais celle-là riche, dure, manipulatrice, intrigante, Violette Gamard, qui va liguer contre la jeune libraire tous les notables de la ville, car elle veut la faire partir pour imposer son projet d'ouvrir un centre d'art. Voilà. Et en fait, c'est le thème de prédilection d'Isabelle Coixet, des femmes confrontées aux aléas de la vie. Voilà. Donc, le bookshop a récolté trois Goya, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure adaptation. Et en France, le livre est sorti sous le titre « L'affaire Lolita », puis « La librairie ». Non, « La libraire », pardon. Donc, Isabelle Coixet est très prolifique. C'est une réalisatrice espagnole qui a maintenant 60 ans, mais qui en est déjà à son 23e film, alors que sa carrière a commencé en 1989. Voilà, donc les acteurs principaux sont Emily Mortimer, Florence Green, Bill Nighy, je ne sais pas trop le prononcer, Edmond Brundish, et Patricia Clarkson, qui est la vilaine, la méchante. Violette Gamard, la notable, et sans oublier la jeune Christine, qui est interprétée par Honor Nifsey. Elle a un nom à coucher dehors et difficile à prononcer. Et en fait, j'ai appris que cette jeune actrice était âgée de 16 ans, alors que dans le film, dans le film, elle paraît vraiment toute jeune. Voilà. Alors là, je ne sais pas. Ah oui, voilà. J'ai perdu le film. Voilà. Est-ce que, Claude, tu as quelque chose à dire sur ce film? Oui,
comme on dit, cette petite fille, elle ne fait pas son âge. Mais en fait, dans le sens inverse, par rapport à ce qui se fait d'habitude. Oui, c'est alors, tu as parlé tout à l'heure de Lolita, parce que c'est le bouquin de Nabokov qui a fait scandale un peu partout, et qui, alors que la librairie marche très bien, elle va prendre, donc Florence Green va prendre la décision d'en commander 250 pour vendre dans sa petite bourgade, et ça va déclencher évidemment le scandale et la colère donc de Violette Gamard, qui est la méchante, comme tu disais tout à l'heure. Bon, moi, ce film, j'ai trouvé plutôt sympathique, mais je suis un peu resté sur ma faim, parce que je trouve que c'est un livre qui, c'est un film qui doit parler de livres. J'ai un lapsus significatif là. Je trouve qu'il ne parle pas assez des livres. Il parle plutôt des personnages, de l'histoire de la ça tourne autour de la librairie, mais ça tourne pas suffisamment à mon goût pour la librairie, pour les livres. Je sais pas comment tu vois ça. Alors moi, ce que j'ai le plus aimé finalement dans ce film, c'est le rôle de cette jeune fille dont tu viens de parler, donc qui est un peu le fil conducteur de ce film.
Simone?
Oui, alors justement, autant Florence paraît ne pas se défendre, mais bon, le pouvait-elle, puisque Violette Gamard va faire même publier des lois au dernier moment pour l'empêcher, enfin pour la détruire. Et alors que cette jeune personne, Christine, va être la plus dynamique, et on verra d'ailleurs toute son importance à la fin du film. Voilà. C'est vrai que Florence se laisse assez berner. Peut-être a-t-elle trop confiance dans les gens. Et au début, sa librairie va très très bien fonctionner. Finalement, elle va avoir du succès, les gens vont venir. Elle s'est fait quelques amis dans la population, mais elle ne sera pas assez forte pour lutter. D'autant qu'elle Et là aussi, il y a une très jolie histoire entre elle et le vieux monsieur Edmond Brundish, qui va essayer de la défendre, mais qui perdra ses forces aussi. Et il y a aussi une histoire sous-jacente d'amour, des non-dits entre le vieux monsieur et la libraire. Moi, j'ai trouvé ce film très... très attachant. Il y a un jeu de lumière. Alors les lumières sont magnifiques, les paysages aussi sont magnifiques. Au début très lumineux et puis qui vont de plus en plus en s'assombrissant. On voit la couleur de la mer au début très très claire, très très vivante si on peut dire. Et puis à la presque dernière image, la mer est noire carrément. Et justement, la photographie est réalisée par un Français qui travaille beaucoup avec Isabelle Coixet. Et vraiment, c'est très, très réussi. Alors, ce film n'a pas eu énormément de succès auprès des critiques, autant spectateurs que... Mais moi, je l'aime. Moi, je l'aime.
Merci pour votre coup de cœur, Simone. Claude, un autre roman?
C'est ce que les Anglais appellent un feel good movie, c'est-à-dire que c'est un film un peu émouvant. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas un très bon film non plus. Mais c'est un film qui se laisse regarder avec beaucoup de plaisir. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait un clin d'œil dans ce film, justement à propos du personnage. Il y a un enfant à lunettes qui sert de courrier d'estafette. Entre les divers personnages et surtout donc entre le vieux monsieur donc qui s'appelle Edmond Brundish et la libraire, et ça m'a fait beaucoup penser à un film de Louzet qui s'appelle Le Messager, qui est un peu ancien. Je sais pas, Simone, si vous voulez, si ça vous dit quelque chose. Donc qui était avec Julie Christie et Alain Dathès dans les principaux rôles. Donc, qui était Julie Christie, si j'ai bonne mémoire, c'était une jeune fille de famille qui était promise à un noble ou à un hobereau du coin. Et Alain Dathès, c'était un valet, pas un valet de chambre, mais enfin, il avait très peu. Et ils étaient amants. Et dans Le Messager, donc le titre du film dit bien ce qu'il veut dire, il y avait un jeune garçon aussi qui servait, qui allait porter les messages. Les lettres, tout ça, de rendez-vous entre les deux amants. Voilà.
Ouais. Oui, Simone.
Oui, il y a une astuce d'ailleurs dans ces lettres, c'est qu'elles ne sont pas lues. On n'entend pas la personne qui le lit, mais la personne qui l'a écrit. Alors, enfin, c'est tout un procédé cinématographique. Moi, j'ai bien aimé aussi. Mais le temps tourne, alors je ne sais pas trop combien de temps. Voilà.
Alors, merci à tous les deux pour ces deux choix, ces deux coups de cœur. Juste une courte pause musicale avant de retrouver Claude pour un bilan du cinéma de 2020.
Rapide bilan.
Alors, nous sommes toujours sur FM+, avec Claude Bonnet et Simone Clerc en visioconférence. Alors, Claude, vous étiez à la présentation du Festival Cinémed. Alors, comment ça s'est passé dans cette période un peu difficile?
On va dire d'abord, le premier point, c'est que ça s'est passé.
Oui,
c'est passé. Voilà, parce que jusqu'au dernier moment, on se demandait s'il aurait lieu ou pas lieu. En fait, la seule journée, si je puis dire, c'est... qui s'est passé normalement, c'est la journée d'ouverture, la soirée d'ouverture, puisque le couvre-feu donc a commencé le samedi. Alors, 42e Cinémed, si vous avez entendu donc la musique de Vite et Demi, c'est pas pour rien, parce que c'était d'abord et avant tout, je trouve, un hommage à Fellini. C'était le centième anniversaire de la mort de Fellini. Et il y a eu une émission absolument... tous ces films ont été remasterisés et au cinéma, ils ont pu obtenir donc, la totalité de ces films de Fellini. Donc, c'était pour moi le clou de ce 42e cinéma. Il y a eu en même temps des expositions. Il y a eu vous savez que Fellini, à ses débuts, était caricaturiste. Donc, il y a quelques photos, quelques caricatures qui étaient là. Il y a eu des photos de films aussi. Et il y a eu aussi une conférence très intéressante donc, sur Fellini, avec notamment Daniel Pennac. Autre chose dans ce festival, il y a eu évidemment, Covid oblige, il y a eu beaucoup moins de films. Je crois qu'il y a eu 130 films qui ont été projetés, alors que d'habitude il y en a presque le double. Il y a eu évidemment moins de spectateurs, puisque les salles ne pouvaient se remplir qu'à moitié, mais il y a eu à peu près la moitié aussi des spectateurs habituels. Mais dans l'ensemble, au fur et à mesure que le temps passait, il y avait l'ambiance un peu qui revenait, bien qu'évidemment, il n'y avait pas de cocktail, il n'y avait pas de... Voilà. Alors, en deux mots, les films qui ont été primés, l'Antigone d'Or, ça a été un film serbe qui s'appelle Le Père. Le prix du public est revenu à Here We Are de Mir Bergman, un cinéaste israélien. Là aussi, les deux films se ressemblaient parce que le père était le personnage central et c'est un sujet qui est assez rare au cinéma. Le prix de la critique est allé à un film donc, qui s'appelle Teddy, qui a été réalisé par deux frères français, les frères Boukerma. C'est une histoire de loup-garou revue et corrigée à leur façon. C'est particulièrement, je pense que ces deux jeunes cinéastes donc sont promis un grand avenir parce que pour faire ce film donc c'est un film qui a été tourné dans la région aussi dans la montagne des Pyrénées orientales. Le prix du jeune public est allé à un film turc qui s'appelle Flash Drive, et c'est l'histoire c'est l'histoire vraie d'ailleurs d'un Syrien. Qui a été un lanceur d'alerte, qui a dénoncé qui était dans l'armée, qui a eu la possibilité d'obtenir, de voler, ni plus ni moins, des documents sur les massacres les cadavres qui ont été trouvés essentiellement donc, à Alep, en Syrie. C'était les brigades de Bachar el-Assad qui avaient fait ça. Donc, il a réussi à piquer ces photos et il les a après mille et mille aventures il est arrivé finalement à la frontière turque et il a pu les divulguer au monde entier. Voilà pour le festival. Donc on espère que l'an prochain ça se passera on reviendra aux conditions normales parce que bon, la seule chose qui est coulée à flot c'est le liquide donc pour se laver les mains, le gel hydroalcoolique. Donc, vous voyez que ce n'était pas très, très réjouissant quand même.
Merci, Claude. Vous étiez au Festival Cinémex, Simone ?
Non, je n'ai pas pu y assister cette année. Voilà.
Bien, on se quitte alors. On se quitte tous les trois.
Oui. Rajouter une chose, c'est que les films dont on a parlé, on peut les voir et les revoir sur Arte. C'est peut-être ce que Simone voulait dire.
Toute la sélection de Cinémed ?
Ça veut dire que donc, ces films, on peut les voir gratuitement en allant sur le net et en tapant Arte Cinéma. Voilà. Je pense qu'il y a un certain nombre de films, comme tous les ans, qui sont passés à la sélection compétition de Cinémed, qu'on verra, si tout va bien, l'an prochain ou l'année d'après dans les salles.
Dans les salles. Merci à tous les deux. Merci à vous, Simone Claire, pour votre choix de The Bookshop et merci à vous, Claude, pour votre choix de l'Auberge de la Jamaïque. On se retrouve au mois de décembre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Merci, au revoir. Au revoir.
Merci à l'association Profil, merci à Claude Bonnet et Simone Clerg d'assurer la maintenance de nos programmes. Bonne journée à tous et à jeudi. FM Plus.